l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Les chrétiens orthodoxes du monde entier célèbrent aujourd'hui le dimanche de Rameau, fête appelée aussi la Pâque fleurie. Durant la divine liturgie du matin, avec des rameaux et des fleurs à la main, ils ont accueilli l'entrée du Sauveur à Jérusalem. Ce dimanche a été précédé par le samedi de Saint-Lazare, la célébration du moment de grâce où, le quatrième jour après sa mort, Lazare a été ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ et il a commencé une nouvelle vie. Sur la signification de ces deux fêtes, je me suis entretenu avec le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen de paroisse de la métropole orthodoxe roumaine en France et recteur de la paroisse francophone Saint-Germain et Saint-Cloud à Louvciennes. Je lui ai demandé d'abord de nous dire quelques mots sur le samedi de Saint-Lazare.
Il y a une tradition qui dit que Saint Lazare, qui avait été ramené à la vie par le Christ, est venu dans le sud des Gaules avec Sainte Marie-Madeleine. Et donc ceci est une manière de dire que le christianisme dans notre pays est vraiment très ancien, qu'il a été apporté par des gens qui avaient connu le Christ personnellement. Donc je dirais que les Français, et les Français orthodoxes, mais tous les Français, doivent avoir une vénération et une tendresse particulière pour Saint Lazare, l'ami du Christ, que, en ce jour du samedi dit de Saint-Lazare, justement, le Christ a ramené à la vie. Mais bien sûr, c'est pour tous les orthodoxes et pour tous les chrétiens une fête importante, je pense, puisqu'il s'agit, dans ce retour de Lazare à la vie, d'une manifestation de la puissance divine du Christ. La résurrection de Lazare est une théophanie tout à fait extraordinaire, puisque le Christ ramène à la vie quelqu'un qui est au quatrième jour de son décès et dont le corps commence à se décomposer, comme l'indique le Saint-Évangile lui-même. Donc c'est une manifestation de la puissance créatrice du Christ, Dieu. Le samedi de Lazare est une préfiguration, une sorte de prophétie extraordinaire de la résurrection du Christ lui-même, pour préparer aussi les disciples et tous ceux qui croient en lui à finalement accepter sa propre levée d'entre les morts, peut-être les préparer à croire, donner une sorte de preuve de sa puissance divine avant sa propre résurrection.
Thank you. le samedi de Saint-Lazare nous prépare aussi pour le dimanche de Ramon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette fête qui annonce déjà le début de la semaine sainte?
D'abord, je crois que c'est bien de rappeler que c'est une fête qui a une existence historique très ancienne. Elle a été, depuis l'origine de l'Église, une très grande et belle fête à Jérusalem même. C'est une sorte de Pâques avant Pâques, vraiment l'élément festif tout à fait extraordinaire. Et donc c'est une fête qui est marquée, il y a dans son aspect festif, elle est marquée chez nous les orthodoxes par le fait que ce jour-là nous prenons du poisson, ce qui est tout à fait exceptionnel, parce que pendant le carême on ne mange absolument rien d'animal, sauf le jour de l'Annonciation. Mais c'est vraiment l'entrée, bon, comme on l'appelle d'ailleurs, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Il triomphe parce que justement il vient la veille, ce samedi, il vient de triompher de la mort, il vient de manifester son pouvoir souverain sur la vie et la mort, il vient déjà de se manifester comme roi du monde, comme roi de la vie, comme prince de la vie, comme dit aussi la liturgie quelque part, et c'est cette manifestation de la puissance divine du Christ, de sa royauté pas seulement humaine mais divine, c'est cette exaltation de sa royauté universelle qui est exprimée dans la fête des rameaux, dans la fête, cette entrée glorieuse à Jérusalem, où il entre donc porté par un animal, donc comme celui qui est aussi le maître de la création, c'est très important, celui devant qui toute création se soumet, et il entre, et il est acclamé, il est reçu, il est glorifié, et il est en même temps trahi. Et le Christ sait tout cela. Quand le Christ est porté sur l'anon, sur le petit de l'ânesse, quand il entend les acclamations, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, quand il entend toutes ces acclamations, lui-même qui est le maître du temps, qui est le maître de la vie et de la mort, il sait parfaitement que derrière ces acclamations, il y a aussi le silence de ceux qui le condamnent déjà et de ceux qui veulent sa mort, de ceux qui ne peuvent pas reconnaître sa divinité, qui ne peut pas reconnaître sa qualité de Messie, qui ne voit pas du tout en lui ni le roi d'Israël, ni le roi du monde.
Quel est le symbolisme des rameaux et aussi des fleurs? Parce que, surtout en Roumanie, il y a cette coutume d'apporter à l'église pas seulement des rameaux, mais aussi des fleurs. Et c'est pour cela que ce dimanche s'appelle en Roumanie le dimanche des fleurs, fleuries. Et c'est la fête patronale de tous ceux qui portent des noms de fleurs.
Alors, je crois que ce nom de fleurs ou de Pâques fleuries est un nom qui est donné à la fête non seulement en Roumanie, mais dans d'autres pays. J'ai vu ça dans des textes littéraires écrits en français. Donc c'est vrai que ça a toujours été une fête qui a une dimension cosmique, en fait. Là, c'est aussi la fête du printemps. C'est la fête des premiers bourgeons. D'ailleurs, il y a ces jours-ci, il n'y a qu'à regarder de dehors, là où il reste quand même un peu de végétation, et on voit que les arbres ont leur première pousse verte, ça commence à verdir un peu partout, on commence à voir des forsythias en fleurs, un peu de jaune, on voit des jonquilles, on voit des narcisses. Très nettement, il y a une dimension cosmique de cette fête-là, et c'est une fête du printemps, et ça veut dire que aussi, la foi chrétienne n'est pas une foi coupée du cosmos, n'est pas une foi désincarnée. Au contraire, ce qui est vécu du point de vue de la foi est vécu en étant intégré au grand rythme de la création. Parce que la création, dans ses rythmes cosmiques, accomplit la volonté de Dieu, justement. Donc, si vous voulez, le Christ, dans cette fête des rameaux, il apparaît comme le roi d'Israël, il apparaît comme le roi de ceux qui croient en lui et qui le reconnaissent comme Messie et comme Fils de Dieu, mais il apparaît aussi comme roi de la création. Le roi des plantes, le roi des animaux, et c'est pour ça qu'il y a dans l'icône de la fête, qui est très très belle, eh bien la présence justement du monde cosmique. L'animal, ce fameux ânon, ce petit de l'ânesse, eh bien il représente le monde cosmique, le monde des animaux. Et les rameaux que portent les enfants représentent aussi le monde de la végétation. Et sur l'icône, il y a aussi, si on y pense, il y a la ville de Jérusalem, mais il y a aussi la nature autour, je crois des rochers, des montagnes, le désert qui n'est pas très loin, donc vraiment, cette fête-là, elle est très très belle, elle est très universelle. Elle représente l'universalité du genre humain, le peuple d'Israël, mais aussi le peuple de ceux qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire les nations non juives, mais qui croient dans le Christ. Et au-delà des différents peuples de l'humanité, des différentes nations, au-delà, il y a aussi la présence des animaux, des plantes, des minéraux, et aussi, bien sûr, le monde invisible.
Thank you.
quand notre Seigneur Jésus-Christ est entré par la porte de Jérusalem, il est entré aussi dans la semaine de sa passion. Et avec lui, toute l'Église va entrer dans cette semaine sainte. Une semaine quand le chrétien se prépare pour la grande fête de Pâques. Quelle est la spécificité de cette semaine, du point de vue liturgique surtout?
Je pense que la première caractéristique de cette semaine, c'est le fait que c'est une semaine qui fonctionne en temps réel. Peut-être que c'est la seule période de l'année liturgique où le temps chronologique de la semaine colle exactement, jour pour jour, aux événements rapportés par le Saint-Évangile. Il y a dans la semaine sainte une sanctification du temps, une assumation du temps historique, et qui est quelque chose de très important, parce que c'est aussi ça l'incarnation. L'incarnation, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas seulement une dimension humaine, elle a une dimension cosmique. Et qui dit cosmique dit pas seulement espace, mais il dit aussi le temps. Pendant cette semaine-là, le mouvement des croyants consiste à coller, si je peux dire, à l'histoire du Christ, à s'identifier pas tellement à lui, parce que nous en sommes bien indignes, aucun d'entre nous n'est innocent et ne peut s'identifier au Christ dans sa passion, mais nous allons peut-être plus modestement et plus humblement nous identifier aux différents acteurs de cette semaine sainte. L'un d'entre nous va peut-être se retrouver en Marie-Madeleine, un autre va s'identifier à l'apôtre Pierre qui a apostasié et puis qui s'est repenti, un autre va peut-être s'identifier à Nicodème ou à Joseph d'Arimathie. Enfin, je pense que chacun va trouver de manière mystique en quelque sorte sa propre place personnelle dans cette semaine sainte, et peut-être que certains d'entre nous se sentiront pas très loin de Judas, enfin, je ne sais pas, je crois qu'il y a la place même pour des gens qui sont au bord du suicide, même quelqu'un qui serait en train de penser à sa propre mort et à se donner à sa propre mort trouverait aussi dans la semaine sainte sa place en entendant l'histoire de Judas. Donc il y a quelque chose qui est universel dans la semaine sainte, tout homme peut trouver sa place, indiquée en quelque sorte, à son nom, pratiquement à son nom marqué dans cette semaine-là. Nous entrons là-dedans par un effort ascétique, d'abord. Alors c'est très important, la dimension d'ascèse du christianisme, nous y tenons beaucoup dans notre Église orthodoxe, parce que c'est par l'ascèse qu'on entre dans le réel. Sans ascèse, le christianisme reste une théorie, une doctrine religieuse, une philosophie religieuse, la meilleure du monde peut-être, mais ça reste extérieur. C'est par l'ascèse qu'on entre dans le réel. Et par conséquent, ici, l'ascèse, ça va être pour nous principalement l'abstinence alimentaire et pour ceux qui pourront, le jeûne alimentaire. Il y a des personnes, des fidèles, des prêtres, qui vont jeûner totalement quand même. Deux dimanches à Pâques, c'est très très fréquent. Certains mangeront que le soir, ou certains commenceront un jeûne total à partir du jeudi, mais il va y avoir pour la plupart des croyants orthodoxes dans cette semaine une expérience ascétique très importante, corporelle, psychosomatique si on veut, et donc marquée déjà par l'expérience approfondie de l'abstinence et du jeûne lui-même.
La nuit, mon esprit veille devant toi, ô Dieu. Car tes commandements sont une lumière sur la terre. Oh,
de la 16 pendant cette période-là, c'est quelque chose dont le Christ parle beaucoup, c'est la veille. Le chrétien, pendant la semaine sainte, est quelqu'un qui fait l'expérience de la veille. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Eh bien, ça veut dire être à l'église, ensemble, se retrouver en communauté pour passer de longs moments dans l'église à psalmodier, mais à écouter aussi. Bien sûr, il y a une alternance, nos offices liturgiques orthodoxes sont admirablement faits, il y a une alternance entre la proclamation et l'écoute, de même qu'il y a une alternance entre la mélodie et le texte lu. Bon, il y a beaucoup de structure dans les offices liturgiques, mais de toute façon, pour tous, que ce soit pour le prêtre à l'autel, que ce soit pour les fidèles dans l'assemblée, et que ce soit même pour le chœur qui pourtant n'écoute pas beaucoup, il chante plus qu'il n'écoute, même dans l'ensemble, enfin tout de même, pour tout le monde, il y aura un moment ou un autre, et souvent pendant de longs moments, je pense en particulier à la lecture des évangiles dans les matines du Jeudi Saint, il y aura de longs moments d'écoute, de vigilance, de lutte contre le sommeil, de lutte contre l'agitation des pensées, de lutte contre le découragement, de lutte contre l'apostasie, de lutte contre l'amour du confort, de lutte contre la souffrance physique même due au fait qu'on est debout, et il va y avoir un effort ascétique de don de soi, d'immolation de soi, de participation à la passion du Christ, aux souffrances du Christ, ne serait-ce que par cette veille. Parce que la parole du Christ qu'il a dit aux apôtres qui étaient endormis alors que lui était sur le Golgotha, il aurait dit, c'est quand même pas possible, vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Et quand le Christ dit ça aux apôtres, il le dit aussi à nous. Il nous demande de veiller, en fait, un peu plus qu'une heure. Si on compte le nombre d'heures d'office de la semaine sainte, ça fait beaucoup plus qu'une heure, mais le Christ dit au moins une heure. Et chacun d'entre nous entend cette parole-là comme un appel à veiller avec le Christ. Et puis il y a dans l'expérience de la veille quelque chose qui est très important, c'est que quand on écoute comme ça, qu'on est dans la veille spirituelle et qu'on prie intérieurement et qu'on est debout et qu'on lutte aussi un peu contre le sommeil, le découragement, l'envie de partir, l'amour du confort, mais qu'on lutte surtout pour être avec le Christ, chacun d'entre nous guette le moment où Dieu va lui parler. Donc il y a un aspect très important, très personnel, très mystique dans l'expérience de la Semaine Sainte, qui est le fait que chacun d'entre nous va entendre dans toutes ces nombreuses paroles, ces nombreuses prières, ces nombreux textes qui sont lus, chacun d'entre nous va entendre peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, une parole qui le touche, une parole qui est pour lui, une parole qui va jusqu'à son cœur, une parole qui lui donne les larmes, une parole qui le convertit, une parole qui est à lui, qui est son cadeau à lui que Dieu lui fait. Et ça, ceci est extrêmement important. C'est pas une veille, c'est pas une veille seulement gratuite, c'est une veille intéressée, mais spirituellement intéressé, parce que nous savons qu'en écoutant, en guettant, en veillant, en attendant l'aurore, comme ça, en entendant la parole de Dieu, nous allons forcément, dans ce courant de la Semaine Sainte, recevoir une parole qui nous sauvera, qui nous touchera. Donc c'est un moment ascétique, c'est un moment mystique très très important que cette Semaine Sainte. Et puis le troisième aspect ascétique, c'est la confession de ses péchés. C'est vraiment très très important. L'être humain ne peut pas être sauvé s'il ne demande pas pardon de tous ses péchés à Dieu. Donc le moment très important, bien sûr, notre sainte Église orthodoxe nous recommande de confesser nos péchés fréquemment pendant toute l'année, bien sûr, chaque fois que nous voulons nous approcher des saints mystères et dans bien d'autres circonstances, mais particulièrement la confession pascale a le sens d'un renouvellement du baptême, d'une conversion, d'un renoncement à Satan, du renouvellement de toutes nos promesses baptismales. Vous savez que dans l'office du Saint Baptême, il y a un moment où on demande aux catéchumènes, renonces-tu à Satan? Et on dit, j'y renonce. Même demande trois fois, je crois, on dit, je renonce à Satan. Et après ça, on dit, est-ce que tu te joins au Christ et à son Église? Et le catéchumène dit, je m'y joins. Donc c'est ce phénomène de renonciation à Satan et de jonction au Christ, je crois qu'il est reproduit, si je peux dire, spirituellement et mystiquement et sacramentellement dans la Semaine Sainte pour chacun des croyants, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les diacres et les fidèles qui confessent leurs péchés, si possible avec larmes, de tout leur cœur, sincèrement, sans rien cacher, et qui vraiment croient de toute leur force à la puissance de la résurrection déjà. Parce qu'en fait, le pardon, le mystère du pardon, ce qui délie l'homme de ses péchés, c'est la puissance de la résurrection. C'est une des premières expériences que nous avons de la puissance de la résurrection que le pardon de nos péchés.
selon la tradition roumaine, à l'occasion de la fête des rameaux, qui est appelée le dimanche des fleurs ou Flori, sont fêtés tous ceux qui s'appellent Florian, Florine, Florina ou qui portent des noms de fleurs. Je leur souhaite bonne fête, ainsi qu'à vous tous, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui.
Une émission réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère de Simonos Petra au Mont Athos et du monastère Saint-Antoine le Grand dans le Vercors, la chorale Saint-Jean d'Amassène de Paris, l'ensemble byzantin Studion de France et la chorale Madrigal de Roumanie. Je vous souhaite une bonne semaine sainte, emplie de joie spirituelle et de joyeuses Pâques. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM, dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.